Guillaume Lebrun, bonjour, qui est photographe, qui a fait ses études, des études d'art plastique à Paris 8. Et il est également enseignant à l'école d'art appliqué dans le 5e arrondissement. Et il a rencontré Florence Duret, ici présente, qui est astronome à l'IAP. Je vais vous dire après dans quel contexte ils se sont rencontrés, mais peut-être que vous allez le faire mieux que moi. En tout cas, Florence Duret est astronome, fait partie de la maison depuis 1980 à peu près, où elle est arrivée, fraîche et moulue, là, de Chine. Elle venait, elle avait passé un peu plus d'un an à travailler sur les amas de galaxies, et elle a terminé sa thèse à la fois sur les amas de galaxies et sur les noyaux actifs de galaxies. Vous savez que les galaxies ne sont pas toutes très tranquilles. Dans certains cas, il y a quelque chose de très très puissant et très intéressant qui se passe au sein des noyaux. C'est un sujet, les quasars sont aussi des noyaux actifs de galaxies. Donc elle a fait sa thèse terminée dans les années 82-3, à peu près. Voilà. Et ensuite, bien, elle s'est sentie bien ici à l'IAP, et depuis... Elle continue son travail en passant peu à peu du thème noyau actif de galaxies au thème amas de galaxies. Elle a travaillé avec plusieurs personnes à l'Institut d'astrophysique et c'est sur ce sujet dont elle va parler ce soir qu'elle consacre maintenant l'essentiel de son travail. Mais ce n'est pas seulement ces activités-là, il y a aussi un travail qui est fait auprès de sur l'astronome au féminin. Enfin, elle fait partie d'un certain nombre de sociétés savantes. Et voilà. Et alors la rencontre est intéressante. C'est faite par le truchement d'un CCST, Centre de Culture Scientifique et Technique, qui est Fondation 93, qu'on connaît bien, qui agit beaucoup, non seulement dans le 93, mais aussi en région parisienne, qui avait monté un projet qu'on appelait Chercheur d'art, Chercheur de sciences, auquel j'ai participé, j'avais pris beaucoup de plaisir, consistant à faire se rencontrer un artiste et un scientifique et d'aller parler, de construire un projet auprès des écoles sur un an ou sur deux ans. Donc on a le temps vraiment de faire quelque chose de substantiel. Voilà. C'est donc sur un sujet intitulé « Perception visible et invisible » que Guillaume Lebrun et Florence Duret se sont rencontrés et vont nous parler de voilà, ce qu'a été ce travail.
Merci Daniel. Donc, je vais d'abord vous présenter, enfin c'est plutôt Guillaume d'ailleurs qui va vous présenter le projet. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre donc de F93 qui associait un chercheur et un artiste pendant l'année scolaire 2010-2011. Et donc nous sommes allés ensemble ou séparément travailler plusieurs fois dans l'année scolaire dans une classe de troisième à Neuilly-sur-Marne, donc dans un collège. Et avant de commencer à travailler dans cette classe, nous nous sommes rencontrés, donc Guillaume est venu me voir. Et puis il va vous raconter un peu ses impressions quand il est arrivé ici. Il se demandait bien ce qu'il allait pouvoir me raconter. Moi je me demandais un peu ce que j'allais lui raconter, donc je lui ai montré ce que j'étais en train de faire en ce moment, à ce moment-là, qui était de travailler sur l'amas au fucus. Et puis ça nous a donné des idées pour la suite.
Exactement, donc voilà, moi effectivement donc, je suis photographe depuis quelques années et je travaille pour la F93 aussi depuis quelques années sur plusieurs projets. L'année dernière, effectivement, la F93 m'a proposé de faire un projet qui effectivement s'intitulait Eureka, donc sur le rapport qui voulait questionner, créer un dialogue entre l'art et la science. Donc la F93 est avant tout une fondation vraiment à but scientifique, mais qui essaye de créer des dialogues, un peu l'art et la culture au collège au sens large. L'idée de rencontrer des astrophysiciens, au départ, moi, j'étais un peu impressionné en me disant « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à des astrophysiciens avec mon parcours de photographe qui était plutôt axé sur du voyage, la Méditerranée, la rencontre de gens et portraits que je réalise à droite à gauche ?» Et puis finalement, quand on s'est rencontrés, comme le disait à l'instant Florence, elle m'a présenté des images sur lesquelles elle travaillait actuellement sur l'amas de galaxies au fucus. Et puis, pour déjà créer un dialogue, le visible et l'invisible, c'est quoi la photographie, c'est quoi le métier de photographe, le métier d'astrophysicien, etc., on a en fait décidé de... Enfin, moi, je lui ai proposé de lui montrer les images, que je vais vous montrer en même temps. Voilà. Et tout est parti de ça et ça. La première et la deuxième image que vous voyez sur l'écran. La première image, c'est simplement un paysage photographique que j'ai pas réalisé sur une autre planète que la Terre, simplement en Turquie, à côté du détroit des Dardanelles, sur les rives asiatiques et européennes de ce coin-là, qui est un amas, non pas un amas de galaxies, mais un amas de coquillages qu'on peut voir sur le bord de la mer. Et puis, Florence me montre effectivement ces images de l'espace, amas de galaxies au Fucus. Et puis finalement, en allant à mon tour chercher dans la matière, le côté grossissement de l'image photographique, expression du grain et de la matière originale photographique, qui est le grain de la pellicule, etc., qui est un élément très important quand on parle de matière, on avait des choses sur lesquelles on était en commun. Et puis, on retrouvait, là, on est dans un dézoom des images d'Ophiuchus, des images photographiques d'Ophiuchus. Et à partir de là, si je les montre comme ça en miniature et qu'on voit plusieurs images toutes ensemble, finalement, le début du dialogue, il s'est passé là pour nous. On s'est dit, tiens, on va partir de ça. Le visible et l'invisible, la photographie, la science, on se rendait compte d'une chose qu'on avait en commun, c'est qu'on travaille tous les deux à partir du réel, pas du tout pour la même utilité derrière et même questionnement, mais que finalement, l'artiste, autant que le scientifique, se questionne sur le monde qui nous entoure et tente d'essayer d'en faire ressortir quelque chose. Voilà, donc tout est parti de là. Je pense qu'on pourra revenir après sur l'expérience qu'on a vécue, etc.
On a commencé en fait la première séance avec les élèves en leur montrant deux images, une image zoomée de la photo prise par Guillaume et une image le moins zoomée possible de l'amas Ophiuchus, et on leur a demandé quelle était l'image qui avait été prise sur une plage et quelle était l'image du ciel. Et on les a fait voter, évidemment c'était à peu près 50-50 parce que c'était quasiment impossible de les distinguer, donc ensuite ça a été le point de départ. Voilà, donc je vais maintenant vous parler d'amas de galaxies, puisque vous êtes quand même là, en général, pour entendre parler d'astronomie. Et puis on reviendra à notre projet tout à l'heure. Les amas de galaxies, donc, ont été, découverts dans le courant du XXe siècle. Jusque-là, on n'en fait pas tellement mention. En fait, ce sont des zones du ciel qui sont les plus grandes structures vraiment dynamiquement liées par la gravité et relativement, je dirais, en équilibre. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a deux grandes figures qui marquent l'étude des amas de galaxies. C'est d'abord Zwicky, qui était suisse, qui le premier a fait l'hypothèse que dans les amas de galaxies, les vitesses relatives des galaxies les unes par rapport aux autres étaient très importantes et qu'il fallait forcément qu'il existe de la matière en plus qui permette de retenir les galaxies à l'intérieur de l'amas. Étant donné leur vitesse, normalement, les amas ne devraient pas exister, étant donné les vitesses des galaxies les unes par rapport aux autres. Il a commencé à faire des calculs pour montrer qu'effectivement, il devait exister de la masse qu'on ne voyait pas, mais qui retenait les galaxies. C'est ce qu'on appelle la matière noire ou la matière sombre. Et puis ensuite, il y a eu Abel, l'Américain George Abel, qui a constitué le premier catalogue de plusieurs milliers d'amas de galaxies en observant des plaques photographiques, donc des plaques qui devaient faire 40 ou 50 centimètres de côté, avec une loupe binoculaire et en recherchant à l'œil, donc un travail de moine bénédictin ou de fourmi, comme vous voulez, il a fait ça pendant des années et il a repéré les endroits où il y avait des surdensités de galaxies, c'est-à-dire beaucoup de galaxies qui avaient l'air d'être ensemble. Il a appelé ça des amas. Bien évidemment, tous les amas d'Abel ne sont pas forcément des vrais amas, au sens où quand on mesure les distances de chacune des galaxies, il faut que toutes ces galaxies soient à la même distance pour faire partie d'un amas. Il peut y avoir des galaxies qui sont devant, des galaxies qui sont derrière, donc c'est difficile de savoir si une galaxie appartient à un amas tant qu'on n'a pas mesuré sa distance. Mais Abel a constitué un énorme catalogue de plusieurs milliers d'amas, et Encore aujourd'hui, les amas d'Abel sont étudiés parce qu'on ne connaît pas tout sur les amas d'Abel, bien que ce soit des amas relativement proches. Évidemment, on en a observé beaucoup d'autres depuis, mais voilà, ça a été vraiment un point de départ important. Alors, un amas de galaxies, ça ressemble à ça. À gauche, vous avez une image de l'amas de Coma. Coma, c'est un amas bien connu parce qu'il est dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Bien sûr, quand je dis qu'il est dans la constellation, il n'est pas du tout dans la constellation, puisque une constellation, c'est une forme qui représente en général un animal ou un être mythologique qu'on dessine avec des étoiles qui sont dans notre galaxie, la Voie lactée, qui sont en général des étoiles à des distances différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui semblent dessiner quelque chose. Quand je dis que Coma est dans la chevelure de Bérénice, ça veut dire qu'en fait, cet amas se trouve dans la direction de cette constellation, mais évidemment, il est beaucoup plus loin que la constellation de la chevelure de Bérénice, puisque la constellation, ce sont des étoiles qui sont dans notre galaxie. Donc vous voyez qu'en lumière visible, vous avez ici une image de Coma en lumière visible, avec deux très grosses galaxies, qui sont des grosses galaxies elliptiques. La plupart des amas n'ont qu'une grosse galaxie elliptique en leur centre, mais Coma en a deux. Et si vous regardez la partie centrale ici, qui est dans le rectangle vert, ici, observée en rayons X par le satellite Chandra, on va y revenir, ben vous voyez deux points très brillants qui correspondent à l'émission en rayons X de ces deux galaxies. Et puis vous voyez une sorte de halo diffus qui est l'émission X de l'amas de Coma. Si maintenant vous regardez à beaucoup plus grande échelle encore que l'image optique, vous avez ici une image prise par le satellite XMM Newton, qui a été prise en fait, qui est une superposition d'images, hein, puisque le champ d'XMM, c'est à peu près un cercle qui doit englober à peu près ce groupe-là. Vous voyez, ça, c'est un groupe de galaxies qui émet aussi en X. Et cette image-là, je l'ai aussi montrée à Neuilly-sur-Marne en leur montrant, pour leur faire toucher du doigt la notion de fausse couleur, puisqu'évidemment, déjà, en lumière visible, on va adapter la table de couleurs pour faire apparaître certains détails, et on va essayer de se débrouiller pour choisir une table de couleurs qui montre les galaxies elliptiques plutôt jaunes ou plutôt rouges, puisqu'elles sont riches en étoiles vieilles. Et par contre, on va faire apparaître les étoiles bleues, plutôt bleues. Là, on a une grosse étoile qui nous gêne beaucoup d'ailleurs quand on prend des images, mais malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser. En rayons X, nos yeux n'étant pas sensibles aux rayons X, évidemment, il n'y a pas de couleur. La notion de couleur n'a pas vraiment de sens. Par contre, ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est qu'on avait codé, on avait choisi des couleurs qui représentent l'intensité lumineuse en rayons X. Et donc, les régions qui sont en rose au centre sont les régions les plus brillantes. Ensuite, vous avez du rouge, ensuite du jaune, du vert et puis du bleu. Et en bleu, ce sont les régions les moins brillantes. Donc c'était une manière d'amener la notion de fausse couleur, finalement. Donc pour fixer les idées, les amas de galaxies, ce sont des structures qui comprennent donc des galaxies, du gaz très chaud qui émet en rayons X, et puis de la matière noire qui lie gravitationnellement toutes ces structures. Et en masse, vous avez à peu près 15% du gaz qui est sous forme de gaz émetteur X, 5% de la masse sous forme de galaxies, et puis 80% sous forme de matière noire. C'est relativement inconfortable comme situation, mais voilà, pour l'instant, la matière noire, on ne sait toujours pas ce que c'est. La dimension d'un amas de galaxies, typiquement, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le mégaparsec. Un mégaparsec, c'est 3 fois 10 puissance 22 mètres. Et puis, la masse d'un amas de galaxies, est typiquement de l'ordre de 10 puissance 15 fois la masse du Soleil, la masse du Soleil étant 2 fois 10 puissance 30 kg. Bon, ce sont les unités qu'on utilise quand on parle d'amas de galaxies, parce que ce sont les plus pratiques. Alors, pourquoi au Fucus ? J'étais en train de travailler, et je suis toujours en train de travailler d'ailleurs sur l'amas au Fucus, et j'étais en train de travailler sur l'amas au Fucus quand Guillaume est venu me voir, donc à l'automne 2010. Et au Fucus est un amas très intéressant parce que c'est le deuxième amas le plus chaud et le plus massif dans l'univers proche, et on ne connaît pratiquement rien sur ses propriétés en lumière visible, Ben pourquoi? Parce qu'il est situé seulement à 9 degrés au-dessus de la Voie lactée, ce qui fait que c'est une vraie catastrophe, parce qu'il y a des étoiles absolument partout. Et pour arriver à distinguer les étoiles des galaxies et à ne s'intéresser qu'aux galaxies dans une image qui est complètement polluée par les étoiles, c'est très difficile, ce qui fait qu'on sait très peu de choses sur lui. Donc je vais vous parler d'abord des amas de galaxies en rayons X, hein, en parlant d'Ophiuchus, mais aussi d'autres amas intéressants en rayons X. Et puis ensuite, on va parler des amas de galaxies en lumière visible. En rayons X, donc, on observe les amas de galaxies, entre autres, avec des satellites, puisque les rayons X ne traversent pas l'atmosphère terrestre. Donc, on ne peut pas observer les rayons X depuis le sol. Et actuellement, on a beaucoup de chance parce que depuis une dizaine d'années maintenant, on a trois télescopes placés sur des satellites qui observent en rayons X et qui fonctionnent encore magnifiquement bien. Ils étaient construits pour marcher, fonctionner quelques années. Ils marchent toujours. Donc, c'est une grande chance pour tout le monde. Il y a un satellite qui s'appelle XMM Newton, donc qui est européen. Un satellite qui s'appelle Chandra, en hommage à Chandra Sekhar. Vous savez que les Américains aiment bien raccourcir les noms. Donc voilà, c'est devenu Chandra parce que Chandra Sekhar, ça devait être trop difficile à dire. Et puis Suzaku, qui est le satellite japonais. Les satellites japonais s'appellent toujours Astro, suivi d'une lettre. Et puis au moment du lancement, on leur donne un nom qui est en général un nom de divinité japonaise. Et donc, on ne sait jamais avant le lancement comment le satellite va s'appeler. Je vous parlerai tout à l'heure d'Astro H. Tant qu'il n'est pas lancé, on ne sait pas comment il va s'appeler. Et l'avantage de ces satellites, c'est qu'ils ont des propriétés absolument complémentaires. C'est-à-dire que XMM a un champ relativement grand, c'est-à-dire qu'il observe une région du ciel relativement grande. Alors, tout est relatif, hein. Ça fait un demi-degré de diamètre pour le cercle, un demi-degré, vous direz, si vous le tracez avec un rapporteur, c'est tout petit, mais dans le ciel, pour un satellite X, c'est déjà un grand champ, et surtout, il a une grande sensibilité, c'est-à-dire qu'il peut détecter des amas relativement faibles. Chandra, par contre, a un champ plus petit, mais il a eu ce qu'on appelle une meilleure résolution spatiale, c'est-à-dire qu'il voit des détails beaucoup plus fins dans le ciel, et donc il a permis une avancée colossale dans l'étude et l'analyse des propriétés physiques de ce qui se passe dans les amas de galaxies, en particulier dans les régions centrales où on trouve des régions très, très denses, des régions quasiment vides, comme si le gaz avait été soufflé, très probablement par la présence justement d'une galaxie à noyau actif. On en parlait tout à l'heure, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout ça c'est grâce à Chandra qu'on l'a vu. Et puis Suzaku, lui, a des propriétés complémentaires, c'est-à-dire qu'en fait, il a un champ relativement petit, il ne fait pas d'image, mais par contre, il fait de la spectroscopie en rayons X de très très bonne qualité, qui permet d'analyser les éléments chimiques, c'est-à-dire de déterminer combien il y a de fer, combien il y a d'oxygène, combien il y a de silicium, je ne sais pas quoi, dans le gaz émetteur X des amas de galaxies. Et Suzaku le fait beaucoup mieux que les autres satellites. Donc on a besoin en fait de tous ces satellites pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et donc en rayons X, on l'a vu sur l'exemple de Coma, les sources apparaissent étendues, diffuses. Et en fait, si on analyse la lumière qui nous parvient en X, on s'aperçoit que c'est du gaz qui est très fortement ionisé, c'est-à-dire que par exemple le fer. Vous savez qu'un atome de fer, il a 26 électrons. Ben vous allez trouver le fer avec son noyau et puis un ou deux électrons qui tournent autour. Tous les autres ont été arrachés par effet thermique parce que, justement, c'est un gaz très, très chaud. Et on a essentiellement dans ce gaz des protons et des électrons puisque l'hydrogène est l'élément majoritaire dans l'univers. Quand l'hydrogène est ionisé parce que, justement, la température est très élevée, ben, l'hydrogène, c'est un proton et un électron, et donc les protons et les électrons vont être séparés parce que la température est très élevée. Et à ce moment-là, lorsqu'un électron passe près d'un proton, il va être ralenti. En étant ralenti, il perd de l'énergie. Cette énergie, il faut bien qu'elle se retrouve quelque part. Ben, elle se retrouve sous forme de rayonnement X, donc de photons X, et il y a une émission de lumière en rayons X par ce mécanisme. Et on arrive à faire maintenant des spectres en rayons X. Voilà un spectre en rayons X. Bon, c'est, ils sont moins jolis que les spectres qu'on peut faire en optique et que certains d'entre vous ont pu déjà voir, mais c'est déjà pas mal. Il y a surtout ici une raie du fer qui est très intense et qui est donc très intéressante parce qu'elle nous permet de calculer l'abondance en fer dans le gaz qui émet en X. Et puis, si on calcule la densité de ce gaz, on trouve qu'on a environ 10 puissance 8 particules par mètre cube, alors que l'atmosphère au niveau de la mer, l'atmosphère terrestre, en contient à peu près 10 puissance 25. Donc, vous voyez, c'est un milieu très, très peu dense. Par contre, la température est de plusieurs millions de degrés. Donc, c'est un gaz qu'on n'arrive pas à reproduire sur Terre parce qu'on ne l'a pas, mais bon, on arrive quand même avec la physique des plasmas à faire des modèles de gaz ayant ces propriétés-là. Et ensuite, on va ajuster les spectres qu'on observe avec les spectres prédits par la physique des plasmas, calculés par la physique des plasmas, et on va arriver comme ça, à partir d'un spectre, à déduire la température et l'abondance en fer. Après, si on a un très très bon spectre, on va pouvoir voir d'autres raies ici et ça va nous donner des informations sur d'autres éléments que le fer. Mais c'est le fer le plus abondant et le plus facile à déduire. Et donc, grâce à toutes ces informations, on va pouvoir déduire, donc, comme je l'ai dit, la température et la densité du gaz. On va voir comment ces quantités varient, soit en fonction de la distance au centre, soit en différentes régions de l'amas. Et puis, on va aussi pouvoir déduire la masse du gaz, de toute la masse totale du gaz X. Et si on suppose maintenant que ce gaz X est un traceur de la masse totale de l'amas, c'est-à-dire que l'ensemble de la matière dans l'amas est distribué de la même manière que le gaz X et est en équilibre avec le gaz X, eh bien ça va être une manière de déduire, de calculer la masse totale de l'amas. Donc, c'est intéressant. Bien sûr, ça oblige à faire une hypothèse, qui est l'hypothèse de ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que le gaz chaud qui émet en X est en équilibre avec la matière noire, et en fait est en équilibre dans le puits de potentiel de la matière noire, puisque c'est la matière noire qui impose son puits de potentiel, puisqu'elle représente 80% de la masse. Et c'est comme ça qu'on arrive à calculer, c'est une méthode pour calculer la masse d'un amas. Alors, avec XMM, qui a une grande sensibilité, on a réussi pour la première fois à obtenir des cartes de température et des cartes de métallicité. Alors, les astronomes ont des termes souvent un peu barbares. Métallicité, ça veut dire l'abondance en éléments autres que l'hydrogène et l'hélium. Tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium, nous, on appelle ça des métaux. Allez savoir pourquoi. Et donc la métallicité, c'est l'abondance de tous ces éléments qui en général se réduit à l'abondance en fer, en fait, comme je l'ai dit, puisque c'est ce qu'il y a de plus facile à mesurer. Et on s'est rendu compte, et surtout depuis l'arrivée d'XMM, que les fusions d'amas étaient très fréquentes. On a très souvent deux amas en train de fusionner ou qui ont déjà fusionné, et ça donne ça a des conséquences sur les propriétés du gaz chaud. Et donc, en observant le gaz chaud et en comparant sa distribution, et en particulier sa distribution de température avec des simulations numériques, eh bien, on va avoir des informations sur ce qui est arrivé à l'amas pour que sa température ait cet aspect-là. Et donc, en particulier, les fusions, quel type de fusion a pu se produire pour que l'amas ait ce genre de propriété. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien, parce que c'est Abel 85, un vieil ami à moi, dont on a obtenu la température grâce à XMM. Et vous voyez, on a obtenu ça, cette carte de température. Cette carte de température, en fait, il faut bien voir que ça représente des milliers d'heures de calcul. Parce que vous voyez les pixels, la taille d'un pixel, hein, par exemple ce petit pixel rouge, hein, eh bien cette carte de température, on a extrait dans chacun des pixels de cette taille-là, on a extrait un spectre, on l'a corrigé de toutes les réponses instrumentales possibles et imaginables, on l'a calibré et on en a déduit une température. On a fait pareil pour le pixel suivant, etc. Donc ça prend beaucoup, beaucoup d'heures de calcul, parce que c'est très lourd. Et puis, ensuite, on a tracé une carte avec ici, en codant en couleurs, vous voyez, ici, en bas, le bleu et le vert, ce sont les températures relativement basses, et en rouge, les températures chaudes. Vous allez me dire que ça, ça aurait dû être le contraire. Bon, ça peut être... Du moment qu'on le dit, on peut choisir ce qu'on veut. Et on a été très, très étonnés, parce que, d'abord, vous avez cette carte donc, en couleur qui représente la carte de température. Les contours en noir, ici, représentent les lignes d'égale intensité d'émission X. Donc, c'est vraiment l'émissivité, c'est ce qu'on voit. Et dans la région centrale, vous avez une région froide. Ça, ça arrive très souvent dans le centre des amas. Ça, ça ne nous a pas inquiétés. Par contre, la présence de toutes ces petites régions chaudes ici, on se disait, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On n'y comprenait rien. Et puis, à peu près en même temps... Je ne l'ai pas là. J'ai dû le mettre plus loin. Pardon. On a comparé avec des simulations numériques qui montraient que dans le cas d'une fusion qui se serait produite à partir de cette direction-là, à peu près, eh bien, c'était normal d'avoir des régions. Donc, il y avait un amas qui avait dû tomber, qui était plus petit que celui-là. Il y avait un amas qui avait dû tomber par ici et créer cet arc ici de région. Puis l'amas, il a dû traverser. Maintenant, il est parti. Il s'est plus ou moins mélangé avec l'autre. Ici, on a un petit groupe qui est probablement aussi en train de tomber sur l'amas. Et puis, on a aussi détecté un filament ici en rayons X qui semble constitué de groupes qui sont aussi en train de tomber sur l'amas. Et cette région chaude, ben, elle est chauffée justement par la chute des groupes qui tombent sur l'amas et donc qui compriment le gaz et qui font que le gaz émet plus et est plus chaud dans cette région-là. Notre ami Ophiuchus en rayons X, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez que quand on vous parle d'équilibre, c'est tout de suite un peu gênant parce qu'il n'est pas du tout symétrique, vous voyez. Vous avez une région ici avec un noyau, enfin une région plus dense, qui émet beaucoup plus. Ça va ensemble, hein, puisque je ne vous ai pas vraiment dit, mais j'ai montré la formule, mais j'en ai pas parlé. L'émissivité en rayons X est proportionnelle au carré de la densité. Donc évidemment, plus le gaz est dense, plus il va émettre en X. Et vous voyez que vous avez une région ici assez dense qui n'est pas du tout au centre de l'amas. Et donc en fait, il semble qu'Ophiuchus, ça soit un gros amas ici qui a été traversé par un amas plus petit. Et l'amas plus petit est en train de terminer sa traversée du plus grand amas. Alors, la température n'a pas encore vraiment eu le temps de varier tellement. Donc, on voit des régions un petit peu plus chaudes par-ci, par-là. Mais il n'y a pas d'énormes différences de température. Par contre, si on fait un modèle de l'ensemble de l'amas...
Il n'a plus l'air de marcher, lui. On va reprendre l'autre.
Si on regarde cet amas-là, si on fait un modèle, disons, de cet amas-là, du grand, et qu'on le soustrait à l'image, ça permet de faire apparaître... c'est le contraire. Si on fait une image, un modèle du petit amas et qu'on soustrait à l'ensemble de l'image, vous voyez que vous avez une très forte émission supplémentaire par ici.
Et donc, c'est un amas qui clairement a des sous-structures et pour lequel on n'a donc pas le droit de calculer la masse totale de l'amas par la méthode simple. Alors, il y a un autre amas qu'on aime bien, qui s'appelle Abel 3376, qui semble un peu être un grand frère, parce qu'il a été découvert avant, d'Ophiuchus, vous voyez. Il est aussi complètement asymétrique, hein, avec là aussi un petit amas qui semble avoir traversé le grand amas. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ces contours jaunes, de part et d'autre, ce sont des contours d'émission radio cette fois. Et il semble que, en fait, c'est au moment de la formation de l'amas, il y a des électrons qui ont été accélérés et qui ont été éjectés de part et d'autre dans la direction de la fusion de l'amas. Et ces électrons accélérés émettent en radio. Hein. Cette émission radio, elle existe quand il y a des électrons accélérés et un champ magnétique qui n'a pas besoin d'être très intense. Et on connaît quelques exemples d'amas qui ont comme ça une émission radio à très grande échelle, puisque l'ellipse qui est tracée là, elle fait à peu près, elle fait plusieurs mégaparsecs, hein, je ne sais pas exactement. Donc la taille typique d'un amas, c'est 1 mégaparsec, donc là, ça fait 2 ou 3. Et vous avez des régions extrêmement intenses. Et il y a un petit cercle rouge qui indique en fait la position de la galaxie la plus brillante. Donc vous voyez, c'est complètement... Au début, moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais non, il y a une erreur, parce que la galaxie la plus brillante était là, et puis l'amas en X, il était là, avec une très forte émission ici. Donc ça veut dire qu'il y a eu au moins 2 ou 3 fusions. Il y a peut-être un groupe qui a traversé dans ce sens-là et qui se trouve maintenant ici et qui a été tellement abîmé par son passage dans l'amas qu'il ne reste quasiment plus d'émission X. Mais il y a encore des galaxies ici. Et puis, il y a des galaxies là, avec aussi une émission radio ici et puis une émission radio à très grande échelle. Donc, c'est un amas assez, assez compliqué à comprendre. Et bon, bah, pour lui aussi, on a fait une carte de température qui montre qu'il y a effectivement des régions, comme pour Abel 85, c'est même encore plus tourmenté, il y a des régions très chaudes et puis des régions plus froides. Donc c'est un amas assez compliqué. Et si on regarde maintenant la carte de ce qu'on appelle la métallicité, donc essentiellement le fer, vous voyez qu'il y a 2 régions très riches en fer, une ici vers le sud, une de ce côté-là. Et puis c'est comme si il y avait eu un enrichissement en fer par la traversée d'un petit amas. Et il y a des modèles qui permettent d'expliquer ça aussi parce que... On y reviendra quand je parlerai des galaxies. La formation d'étoiles peut être modifiée justement par les fusions d'amas. Il y a des nouveaux satellites donc en projet, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a AstroH qui est prévu donc au Japon avec les Pays-Bas. Et puis, les projets, que ce soit du côté Agence spatiale européenne et du côté NASA, où c'est encore bien pire, changent de nom et réduisent en taille à peu près tous les ans. Et actuellement, on en est à un projet qui s'appelle Athéna, mais c'est malheureusement pas pour tout de suite. On ne sait pas du tout s'il va pouvoir se faire. Ce qui fait que c'est assez angoissant pour les astronomes qui ne font que des rayons X parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir le télescope de la génération suivante, comme il y a eu jusqu'à maintenant, finalement, tous les 5 ou 10 ans, il y avait un nouveau satellite qui était lancé, qui permettait des progrès importants. Alors, en lumière visible, maintenant, je vous parlais d'Ophiuchus, le voilà. Ben, vous voyez bien que c'est compliqué d'observer cet amas et de voir où sont les étoiles et où sont les galaxies. Alors, une étoile comme ça, par exemple, bon, là, évidemment, c'est zoomé énormément, mais une étoile comme ça, avec sa croix de diffraction, ça ne fait aucun doute. Mais après, vous avez des objets comme ça. Est-ce que c'est une étoile et une autre étoile? Est-ce que c'est une étoile et une galaxie? Est-ce que c'est une galaxie... Enfin, il faut arriver à se débarrasser des étoiles, finalement, pour analyser les galaxies. Alors... Quand je suis tombée là-dessus, enfin avant de me décider à observer Ophiuchus en lumière visible, parce que tout le monde me disait « mais tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas rien en tirer », je suis tombée sur un petit article de 3 auteurs, une jeune qui n'était même pas en thèse à l'époque, et puis René Crane-Korteweg, que j'ai connue jadis quand elle était à Meudon, qui est maintenant depuis longtemps en Afrique du Sud, et où ils montraient qu'ils avaient développé une technique qui, à partir d'une image comme ça, arrivait à une image comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avait plus que certaines étoiles brillantes qu'on n'arrivait pas à enlever, et puis une galaxie. Et là, on peut commencer à faire de la photométrie propre sur les galaxies avec cette technique. Donc j'ai écrit à René Crane-Korteweg, qui m'a renvoyé sur des Japonais, et j'ai commencé à collaborer avec des Japonais. Donc, je suis allée au Japon il y a un an, et voilà, Wakamatsu et Nagayama qui font un travail de fourmi, là aussi, mais vraiment magnifique, où ils arrivent, ils extraient, parce que leur logiciel ne tourne pas sur des très grandes images, donc on ne peut pas tout faire à la fois, Donc, autour de chaque galaxie détectée, ils extraient une petite sous-image, ils modélisent toutes les étoiles, ils les soustraient, et ils arrivent à avoir une image propre de la galaxie. Et puis, ils recommencent pour les autres galaxies. Et comme ça, petit à petit, on est en train d'arriver à avoir des mesures propres pour caractériser les galaxies dans l'amas d'Ophiuchus. Mais ça, c'est encore un travail en cours. Et il a pris du retard parce qu'avec le tsunami de l'année dernière, les Japonais ont eu beaucoup de problèmes techniques de coupure de courant et autres, ce qui fait que les pauvres, ça ne pouvait pas beaucoup avancer l'année dernière. Là, c'est bien reparti. Alors, qu'est-ce qui arrive aux galaxies dans les amas? Finalement, il leur arrive toutes sortes de choses, puisque leurs propriétés vont être modifiées du fait qu'elles sont dans un environnement où il y a davantage de galaxies, d'une part, donc où il peut y avoir davantage de fusions de galaxies. Je ne parle pas des fusions d'amas, cette fois. En particulier, les galaxies elliptiques, on sait qu'elles se forment par fusion de galaxies, et on observe beaucoup de galaxies elliptiques dans les amas, justement, très probablement parce qu'il y a eu davantage de fusion de galaxies qui a créé des galaxies elliptiques. Alors que dans les régions extérieures des amas, on voit beaucoup plus de galaxies spirales où il y a justement davantage de formation d'étoiles. Et en fait, on pense que les galaxies spirales qu'on voit sur les bords des amas, ce sont des galaxies qui viennent de l'extérieur, disons du milieu environnant, et qui tombent sur l'amas. Et dans ces cas-là, quand une galaxie spirale tombe sur un amas, il peut arriver que le gaz que contient la galaxie, donc qui n'a rien à voir avec le gaz chaud des amas. Toutes les galaxies ont du gaz qui est de l'hydrogène neutre. Si c'est une spirale, elle contient de l'hydrogène neutre. Cet hydrogène neutre, lorsque la galaxie est en train d'entrer sur l'amas, le gaz de la galaxie va être comprimé et il va y avoir davantage de formation d'étoiles. Et c'est ce qu'on observe dans certains cas, en particulier dans des amas en fusion. Et ça, on l'a vu dans Abel 85 récemment, mais le travail n'est vraiment pas fini, donc je ne vous le montre pas, mais ça sera pour une autre fois. On a vraiment détecté davantage de formation d'étoiles parce qu'il y a des fusions d'amas et des galaxies qui sont en train de tomber et qui forment davantage d'étoiles. Mais il peut arriver le phénomène inverse sous trois formes, en fait. Il y a d'une part le... Alors, pour trouver un terme en français, je n'arrive pas à le traduire comme il faut, mais disons, c'est l'arrachage du gaz par la pression due au gaz X, c'est-à-dire qu'il y a un gaz qui émet en X qui a beau être très peu dense, il est quand même là. Et quand une galaxie traverse le gaz X, eh bien, elle va perdre de la matière. Et en particulier, elle va perdre son gaz parce que c'est beaucoup plus facile de lui arracher du gaz que de lui arracher des étoiles. Donc, elle va perdre quelques étoiles, mais elle va surtout perdre du gaz. Et du coup, si les galaxies n'ont plus de gaz, elles ne forment plus d'étoiles. Il y a un deuxième phénomène qui est justement les fusions de galaxies à l'intérieur et les interactions de galaxies à l'intérieur d'un amas sont fréquentes. Et ça aussi, ça va créer ça va arracher du gaz aux galaxies et elles vont former moins d'étoiles. Et puis enfin, il y a une troisième possibilité, c'est que... alors, c'est la même chose, vous allez me dire, les deux derniers points, c'est presque la même chose. Le gaz est perdu parce que les galaxies s'arrachent du gaz mutuellement et du fait que la quantité de gaz diminue, la formation d'étoiles va diminuer. Donc vous voyez, il y a deux phénomènes antagonistes qui font que d'une part, il peut arriver que la formation d'étoiles augmente dans les galaxies d'amas et il peut aussi arriver qu'elle diminue. Donc ce n'est pas toujours très simple. À très grande échelle, on observe des filaments de galaxies. Ça, c'est un exemple autour de l'amas Abel 496 qui est marqué ici par un point rouge. Et toutes les galaxies en violet sont à la même distance, à très très peu près, que l'amas. Alors que les galaxies qui sont en vert ont aussi des distances mesurées, mais ne sont pas à la même distance. Donc vous voyez que clairement que vous avez ici ce qu'on appelle un filament de galaxies qui est... un ensemble de galaxies. Et donc, ça permet de comprendre comment des galaxies peuvent tomber sur l'amas, parce que si elles sont à la même distance, à très peu près, elles ont plus de chances d'être attirées par l'amas, qui a une grande masse, et de tomber sur l'amas. Et donc, c'est comme ça que finalement les amas n'ont pas fini de se former et ils continuent à accréter des galaxies le long de ce qu'on appelle les filaments cosmiques, justement, qui ont été mis en évidence dans les années 80-90, et puis qui sont aussi trouvés par les simulations numériques de formation des structures, hein, où, par exemple, ça c'est un exemple de résultat de simulation numérique qui a été faite à l'IAP, et vous voyez que ici, on a... c'est pas moi du tout, hein. Ils ont pris un cube contenant un certain nombre de particules. Alors un certain nombre, c'est même un nombre certain, hein, 16 millions de particules. Puis je suis sûre que depuis, on fait encore bien mieux, mais 16 millions de particules qui ont chacune une masse et une vitesse initiale. Et puis on laisse évoluer le système, on calcule comment le système évolue en fonction de la gravité. Hein. C'est uniquement de la gravité, ce sont uniquement des particules massives. Donc en fait, on va dire que ce sont des particules de matière noire puisqu'elles n'interagissent que sous l'effet de la gravité. Et le résultat des simulations numériques donne immanquablement des filaments et à l'intersection des filaments, donc des filaments de galaxies comme celui qu'on vient de voir observationnellement cette fois, des filaments de galaxies et puis à l'intérieur des filaments de galaxies, vous avez des amas de galaxies qui sont les objets dont je vous ai parlé. Il y a un autre phénomène intéressant, c'est que les amas sont des lentilles gravitationnelles. C'est un phénomène qui a été prédit par Einstein au début du XXe siècle. En fait, il a prédit que les rayons... Enfin, il a calculé. Hein, quand je vous parle de prédiction, c'est pas l'astrologie et Madame Irma. Hein, il a prédit parce qu'il a fait des calculs. Et il a calculé que lorsqu'il y avait une grande concentration de masse, les rayons lumineux qui passaient près d'une grande concentration de masse pouvaient, dans certains cas, être défléchis, c'est-à-dire la lumière était courbée et ne se propageait plus en ligne droite, et puis ils pouvaient même, dans certains cas, être amplifiés. Et comme les amas de galaxies, je vous ai dit, 10 puissance 15 masse solaire, ça fait 10 puissance 45 kg, ça fait quand même beaucoup de masse, tout ça, eh bien, ils peuvent... amplifier et défléchir la lumière émise par des galaxies qui sont situées exactement derrière eux. Donc il faut que l'observateur, l'amas et la galaxie d'arrière-plan soient alignés. Et dans ces cas-là, vous avez... ici, c'est la galaxie qui est une galaxie lointaine. Ici, vous avez l'amas. Ici, vous avez l'œil de l'observateur. Bon, l'œil, il ne sert plus à grand-chose dans tout ça, mais enfin, vous avez le détecteur. Si l'alignement est parfait, vous allez voir un système d'arcs qui seront sur un cercle. Bon, ça, c'est quand même très rare, parce que pour avoir un alignement absolument parfait. Mais si l'alignement n'est pas tout à fait parfait, ici, l'angle est très grossi, vous allez voir des petits arcs. Et puis, si l'alignement est encore moins bon, vous allez avoir simplement une distorsion. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle fort dans le premier cas, moyen et puis faible. Et on peut le représenter aussi avec la figure de droite où vous avez cette fois-ci l'espace qui est courbé par la forte concentration de masse. Et donc vous voyez que les rayons lumineux qui sont dessinés en bleu vont voir leur trajectoire modifiée. Ce qui fait qu'on trouve quelque chose comme ça. Donc ici, c'est un amas bien connu. C'est une image qui a été prise par le télescope spatial Hubble. Et vous avez des arcs absolument partout. Donc vous avez ici, on voit très bien les arcs qui semblent représenter un cercle. Bon, et puis comme vraisemblablement, il y a plusieurs sources d'arrière-plan, on voit différents systèmes d'arcs. Et avec ces systèmes d'arcs, si on arrive à mesurer un certain nombre, photométriquement, la quantité de lumière reçue par chacun des arcs, et si on arrive en plus à mesurer leur distance, on arrive vraiment... Leur distance, évidemment, chacun de ces arcs, normalement, doit être... Si on prend le spectre, c'est le spectre d'une galaxie lointaine, et on doit retrouver la même distance pour chacun des arcs, on doit retrouver exactement le même spectre, en fait. C'est la même galaxie qui va donner plusieurs images, et si on prend le spectre, on va retrouver le même spectre. Et donc, ça va être, pour arriver à rendre compte de cet ensemble d'arcs, eh bien, il va falloir modéliser la distribution de masse dans l'amas permettant d'obtenir ce système d'arcs. Et puis, c'est une manière de déterminer la masse de l'amas, là aussi, puisqu'on va avoir la distribution de matière dans l'amas. Et là aussi, on retombe sur le fait que la matière contenue dans l'amas est beaucoup plus importante en masse que la matière qu'on voit, c'est-à-dire les galaxies plus le gaz X. Et puis, ça nous donne aussi la possibilité, comme le rayonnement est amplifié, de voir certaines galaxies lointaines, très lointaines et très faibles, qu'éventuellement on ne trouverait pas autrement. Et il y a eu un très joli résultat en 2006, concernant un amas qui s'appelle le Bullet Cluster. J'ai traduit ça par amas du boulet, c'est pas très joli. En fait, c'est un système de deux amas. Si vous regardez les courbes d'égale intensité lumineuse en optique cette fois, donc vous voyez ici une image en optique avec des galaxies et des courbes, vous voyez très bien qu'il y a un gros amas et un petit amas. Ce sont les mêmes courbes en rose qui sont représentées là, mais cette fois-ci sur une image en rayons X, vous voyez que le gros amas, les galaxies sont là alors que le gaz chaud émet ici. Et puis ici, vous avez du gaz chaud qui visiblement est en train de se déplacer vers la droite. Et vous avez ici, c'est la distribution, j'ai parlé des galaxies, il ne s'agit pas des galaxies, il s'agit de la matière noire, donc de l'essentiel de la masse. Les contours représentent l'essentiel, le calcul de masse à partir de l'effet de lentille gravitationnelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une grosse concentration de masse ici avec du gaz chaud qui est là. Et puis une grosse concentration de masse ici, avec du gaz chaud qui est là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit amas qui a traversé un grand amas, qui se trouve maintenant là, mais le gaz chaud, lui, il est freiné par des forces de viscosité, donc il va moins vite que la matière noire, qui la matière noire n'est freinée par rien du tout. Et donc la majorité de la masse du petit amas est déjà arrivée là, alors que le gaz est à la traîne. Et puis pour le grand amas, le gaz chaud a été déplacé parce qu'il a été plus ou moins entraîné par le petit amas, mais l'essentiel de la masse est ici. Et puis ça, c'est la même chose, mais représenté en couleur. Donc ça, ça a été, je crois, la première fois où on a vraiment mis en évidence directement la distribution différente du gaz et de la matière noire lors d'une fusion d'amas. Alors, je voudrais laisser du temps quand même à Guillaume pour parler. Donc je vais passer très vite sur la fin, là, mais je voudrais juste vous parler d'un grand projet auquel je participe, hein, qui observe 91 amas pour lesquels il y a des données Hubble et qu'on suit essayer de comprendre mieux les propriétés. Et tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de l'arrachage du gaz dans les amas par les galaxies. En fait, il y a aussi des étoiles qui sont arrachées et qui forment ce qu'on appelle la lumière diffuse dans les amas. Donc cette lumière diffuse, elle est due à des étoiles qui ne sont pas attachées à une galaxie. Et du coup, cette lumière diffuse est très difficile à détecter, bien sûr, parce que c'est très faible. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Et on a dans ce grand relevé, en additionnant des images de plus d'une dizaine d'amas, on a réussi à détecter de la lumière diffuse dans les régions centrales. Et puis, maintenant, on est en train d'essayer d'en faire autant pour plus d'amas. Je ne vous dirai pas grand-chose des amas lointains, mais les amas lointains, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait pas observé d'amas à un décalage spectral supérieur à 1, ceux à qui ça dit quelque chose, disons, d'amas relativement lointains. Ce qui est intéressant, c'est que dans le scénario le mieux admis, disons, de formation des structures, les petites structures se formeraient avant les grandes, donc les galaxies se seraient formées avant les amas, ce qui fait qu'en allant observer des objets de plus en plus lointains, des amas de plus en plus lointains, on espère observer des amas en formation. Et on pensait que les amas se formaient vers Z égale 2, alors que finalement, à Z égale 2, il y a au moins un amas connu qui a été détecté il y a quelques années et qui est bien formé, massif, régulier. Donc ça veut dire que les amas se sont formés plus tôt dans l'histoire de l'univers. Et donc, nous avons utilisé une méthode pour rechercher des amas jusqu'à 1,25 en décalage spectral dans un grand relevé qui s'appelle le Canada-France-Hawaii Legacy Survey. Et nous avons découvert plusieurs milliers d'amas. Je passe sur la méthode parce que ça serait trop long, mais disons qu'on cherche des surdensités de galaxies et on détecte ces objets-là comme étant des candidats amas. Et puis après, il faut arriver, bien sûr, à confirmer que ce sont des amas. La meilleure méthode, évidemment, c'est de comparer avec le rayonnement en X, puisque quand il y a un rayonnement en X diffus, on sait qu'il y a un amas. Malheureusement, les comités de sélection des demandes de temps de télescope ne donnent absolument jamais de temps pour observer des objets dont on ne sait pas s'ils existent. Ce qui fait que c'est très difficile, sauf dans le cadre vraiment d'un grand relevé qui va couvrir toute une zone à la fois en optique et en rayons X, et là, ça peut éventuellement se justifier, mais si nous, on essaye d'observer 1000 amas juste pour confirmer que ce sont des amas, on va nous rire au nez et on ne va pas nous donner de temps. Je vous ai parlé des grands projets en rayons X. En optique, un des grands projets, bien sûr, qui nous intéresse beaucoup pour les amas, c'est le projet EELT, un European Extremely Large Telescope, qui est lancé par l'ESO. Donc vous avez ici à la même échelle à gauche ce que pourrait être le EELT, au milieu les quatre télescopes de 8 mètres du VLT et à droite l'Arc de Triomphe. Vous voyez que ça serait quelque chose de plus grand que l'Arc de Triomphe. Donc ce que j'ai vu comme documentation récente, c'était 43 mètres de diamètre. Il n'y a pas encore vraiment l'année. Le site a été choisi au Chili, dans le désert d'Atacama, une région à peu près aussi riante que ce que vous voyez là. Je ne sais pas vraiment si le calendrier est encore tout à fait décidé. Et puis, il y a aussi le projet de satellite Euclide, donc de l'Agence spatiale européenne, qui a été sélectionné il y a quelques mois, qui va couvrir 15 000 degrés carrés, donc plus 40 degrés carrés d'un relevé encore plus profond, dont le responsable est ici, Yannick Mélier, et qui va en particulier apporter énormément pour la meilleure connaissance des amas. Alors, avec la classe de 3e, pour y revenir, on a mené un certain nombre de réflexions. Je vous en livre quelques-unes, et puis Guillaume continuera. D'une part, au début, on en a parlé, donc comment utiliser des images d'astronomie pour un photographe. Donc il va vous montrer ce qu'il a fait de mes images d'Ophiuchus. J'ai essayé de faire réfléchir les élèves sur la signification, sur les images, sur leur signification, sur leur interprétation, sur les manipulations, parce que maintenant, il y en a des tas qui ont Photoshop, qui font ce qu'ils veulent des images et qui leur feront dire ce qu'ils veulent. Donc, méfiance. Les fausses couleurs, je vous en ai parlé à propos des rayons X. Bon, et puis après, je leur ai aussi raconté un peu comment fonctionnait la recherche, comment on concevait un programme d'observation, et puis éventuellement, comment une vue d'artiste pouvait faire comprendre une notion au grand public. Donc, j'ai pris un exemple, mais qui est un exemple un peu compliqué, donc je ne vais peut-être pas forcément insister dessus. Si vous avez déjà entendu parler des galaxies à noyaux actifs, vous avez probablement déjà vu cette figure. Cette figure, c'est une vue d'artiste, hein, c'est un schéma, ça n'a rien de... C'est pas comme ça qu'on observe les choses, bien sûr. Les échelles ne sont pas du tout respectées. Mais ça peut, dans certains cas, aider à comprendre une notion qu'on a du mal à faire passer autrement. Voilà, donc Guillaume va nous parler de ce qu'il a fait, lui, avec les élèves.
Concernant, effectivement, ce qui s'est passé après avec les élèves, on leur a montré ces images. Florence les a rencontrées aussi, seule de son côté, pour parler, effectivement, de l'aspect scientifique du projet et questionner le visible, l'invisible, etc. Et puis moi, c'était plutôt l'ordre de se dire, qu'est-ce qu'on va faire de ces images ? Donc j'ai d'abord, là, j'ai pas... Il y a une partie dont je n'ai pas d'image à vous présenter, parce que ça n'a pas donné de résultat d'un point de vue esthétique, plastique, etc., forcément intéressant. Mais c'était simplement d'aller chercher, dans un premier temps, créer un peu une image rêvée de l'espace, etc., en prenant des choses qui sont juste autour de vous. Donc ça a été de faire des photogrammes. Les photogrammes, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de Man Ray ou ce genre de choses, qui étaient juste des objets posés sur un papier photographique. Donc imaginez une feuille que vous allez prendre en hiver d'un arbre mort et que vous effeuillez tout doucement sur une feuille de papier photo, eh bien, ça va donner une espèce de d'amas, différents éléments, noirs, blancs, etc., en jouant sur ces images. Mais après, en revenant sur le projet d'Ophiuchus, finalement, moi, je leur ai proposé d'installer un studio de photographie dans l'école et puis d'utiliser les images d'Ophiuchus qu'on projetait sur les visages et le buste des élèves qui avaient pris un t-shirt blanc, etc., pour qu'on puisse reconnaître aussi les images d'Ophiuchus. C'est lors de la réappropriation d'images existantes avec un fond noir. Donc j'avais créé un studio comme si on était dans un petit monde lié au cosmos, etc., qu'on a associé avec des phrases des élèves. Donc les élèves avaient été invités, avant qu'on se rencontre et avant qu'on les rencontre avec Florence, avaient été invités à répondre à différentes questions. Pour vous, c'est quoi un artiste? Pour vous, c'est quoi un scientifique? C'est quoi l'univers? Qu'est-ce que c'est votre univers, etc.? Essayer de... qui étaient des questions qui pouvaient nous aider un moment à approcher un dialogue avec eux, questionner des choses, etc., etc. Donc là, simplement, voilà, des phrases aussi d'adolescents, au moment où, quand on parle de la science, on a retenu particulièrement celle-là. Un scientifique tente de résoudre les mystères pour lesquels on ne trouve pas d'explication logique. Il doit trouver une réponse aux questions que tout le monde se pose. Rien n'est arrivé au hasard. La jeune Fatima qui nous racontait ça. Mais du coup, c'était voilà, simplement d'amener une ouverture culturelle, artistique et scientifique, au travers Florence et plus au travers artistique avec moi, en utilisant aussi ces images qui créent aussi une autre lecture possible d'images. Moi, en tant qu'artiste, évidemment, ou photographe, voyant ces images scientifiques, je ne les vois pas dans un premier temps. Enfin, je sais que c'est scientifique, mais je ne sais pas ce qu'elles veulent dire, à quoi elles servent, comment elles sont utilisées. Florence m'a fait comprendre des choses, et j'ai encore appris plein de choses ce soir, donc c'est très bien. Mais voilà, là, utiliser ces images et ces différents zooms d'Ophiuchus, ça crée quelque chose d'autre, une autre interprétation possible, peut-être sensible, en tout cas, on a essayé de tenter quelque chose. L'univers est un ensemble de tous les corps célestes. Pour moi, l'univers est tout noir et très grand, comme un trou perdu, Rajendran, une autre jeune fille, où là, du coup, ça crée une espèce d'univers un peu particulier. Donc voilà, ça a été un questionnement avec eux, une possibilité d'appropriation de ces images qui ont donné du coup ces résultats où là on peut reconnaître du coup sur le t-shirt on voit bien là un amas, c'est ça?
Ah oui, là on voit bien Ophiuchus, hein, vous reconnaissez là, il y a bien sûr vous reconnaissez. Là on voit bien les deux étoiles qu'on voyait tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étoile avec sa croix de diffraction là, et puis bon, pour voir les galaxies là-dessus c'est pas très facile. Mais enfin c'est un petit bout de mon image.
Mais voilà, c'était de placer un peu, voilà. Et puis avec ces adolescents, voilà, simplement les questionner et tenter de les intéresser à tout ça. C'est que peut-être certains s'intéressaient plus à la science, d'autres plus à la photographie. Et du coup, c'était, ça a créé du dialogue avec eux, ça a créé un intérêt dans l'échange, effectivement, culturel et scientifique et artistique avec eux pour parler de tout ça, parler du visible, de l'invisible. Je leur ai même fait lire à un moment le texte Les deux infinis de Pascal. Donc le prof qui était avec nous, qui nous accompagnait dans ce projet, du coup a repris ça à son compte pour du coup aborder ces notions d'infiniment petit, infiniment grand, infiniment lointain. Et ce petit ces images de l'univers très lointain qu'on avait fait rentrer dans une salle de cours en les projetant effectivement sur ses élèves. Donc c'était plutôt une ouverture au sensible, quoi. Continuer effectivement sur... sur le projet, ça a donné lieu, là on peut voir aussi des panneaux, du coup il y a un projet peut-être d'exposition sur ce travail. Il y a un festival de photographie qui semble s'intéresser actuellement à l'idée d'exposer des travaux sur le thème de l'art et la science. Et donc voilà, c'est peut-être de présenter ce travail sous forme d'exposition, accompagné des textes des élèves. Et moi-même, j'ai même envie de continuer aussi un travail avec ces images du cosmos, de l'espace, de les projeter, de continuer un projet artistique peut-être avec l'IAP, avec des images de l'espace pour continuer à exprimer un peu des choses avec ces images comme ça très très lointaines. Il y a une publication aussi qui a été faite avec ces photos et les textes des élèves dans un petit journal qui avait été publié à, je sais plus, 300-350 exemplaires à la fin du projet, parce qu'on n'était pas les seuls, il y avait en fait je crois une dizaine de collèges, quelque chose comme ça, qui étaient dans lequel des plasticiens, photographes, artistes divers et variés sont venus travailler avec des scientifiques, tous membres de l'IAP, pour échanger sur ce thème, le visible et l'invisible, les relations, questionner le monde entre l'art et la science. C'était vraiment toutes ces idées-là, quoi.
Eh bien, merci. Merci et bravo pour ce parcours intéressant, ce dialogue non seulement avec vous, entre vous, mais aussi avec, avec ses élèves. Et je pense que vous en avez également tiré beaucoup de...
Je pense que ça a été très intéressant.
De plaisir et d'enrichissement.
Tous les deux, et c'est vrai qu'on a eu de la chance. Voilà.
Mais on va d'abord passer aux questions donc, qu'ont suscité ces interventions. Oui, je vous en prie.
Merci, c'était formidable. Bon, j'ai deux questions, une pour vous, monsieur, une pour vous, madame. Ça fait au moins 6 fois que j'achète un livre de monsieur Brahic et Isabelle Grenier sur des photos du cosmos absolument incroyables, avec des chocs de galaxies, des supernovas. Je pense, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais alors, question richesse esthétique, hein, en dehors des aspects scientifiques. C'est extraordinaire, il doit y avoir peut-être 200 photos. Est-ce que vous comptez, pour poursuivre dans la voie avec madame, essayer de voir ces images, beaucoup sont double, et essayer d'en tirer un parti pris esthétique. Alors, je pose tout de suite ma deuxième question ou tout de suite après? Ah oui, ma deuxième question, c'est qu'entre deux étoiles, il y a 2,5 années-lumière, donc ça fait à peu près 13 000 milliards de kilomètres.
Entre deux étoiles?
Oui, entre notre Soleil et je sais pas quoi, Vega, Alpha, Sirius, même tout
quatre
ça, c'est des 3-4 années-lumière.
Hein, oui. Bon.
Le rapport entre cette distance entre deux étoiles et le diamètre d'une étoile est considérable, plusieurs milliards de fois. Alors que quand on regarde entre deux galaxies, une galaxie, ça fait 100 000 années-lumière, et par contre, là, il n'y a que 2,5 millions. D'années-lumière. Donc elles sont très très proches. Deux galaxies, par rapport à leur diamètre, sont beaucoup plus proches que deux étoiles. Maintenant, dans les amas, est-ce que c'est encore inférieur à ces 2,5 millions d'années-lumière? Est-ce que les galaxies dans l'amas sont tellement proches que vraiment elles en sont presque à s'arracher
non,
du gaz?
Non, elles ne sont pas spécialement plus proches, je ne pense pas, non. Mais effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de vide dans une galaxie donnée entre les étoiles fait que quand deux galaxies se rencontrent, il n'y a quasiment pas de collision d'étoiles l'une avec l'autre parce qu'elles vont passer près de l'autre, l'une près de l'autre, et puis les étoiles vont se réorganiser différemment, mais elles ne vont pas se cogner parce qu'effectivement... Alors dans les amas, je ne crois pas qu'il y ait... Les galaxies d'amas ne sont pas spécialement plus près l'une de l'autre que... Un peu, bien sûr, puisqu'elles sont dans un... Mais est-ce que le fact, c'est pas du tout dans le même facteur? Vous avez parlé du facteur entre la distance des étoiles par rapport à la taille des étoiles et puis la distance des galaxies entre deux galaxies par rapport à leur taille. Ça n'est pas dans le même facteur. On va pas continuer à se rapprocher autant parce que sinon... ça ne ferait plus qu'une grosse galaxie. Ceci dit, dans les régions centrales des amas, il y a très souvent justement une très très grosse galaxie. Et elle est très grosse parce qu'elle a accrété des petites galaxies qui passaient à côté. Et elle est devenue de plus en plus grosse.
Pour la question effectivement de ces images, j'aimerais beaucoup les découvrir, que je ne connais pas malheureusement, mais j'irai les découvrir, les photos dont vous parlez là tout à l'heure. Il est question, en tout cas, après ce travail, moi je suis en train d'essayer de monter un nouveau projet qui serait vraiment un projet d'une série photographique réalisée dans la ville en utilisant des images finalement très lointaines. C'est un petit peu le rapport finalement du texte de Pascal sur les deux infinis, entre l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ce serait peut-être l'infiniment lointain, et d'aller mettre ces images finalement dans le quotidien, nous, urbains, parisiens, etc., qui ne pouvons même plus voir le ciel. Je trouverais intéressant d'aller s'amuser à projeter avec des vidéoprojecteurs très très puissants des images comme celle-ci, dont je pourrais avoir des droits pour pouvoir les réutiliser, et réaliser des paysages photographiques de nuit sur des immeubles, sur des zones urbaines. Voilà.
Je reviens sur le problème de la matière noire. Vous savez qu'il y a une controverse, comme d'habitude, qui explique, enfin, avec le système monde, et qui peut dire oui, si on modifiait un petit peu les relations, on ferait disparaître la matière noire. Et j'ai l'impression que d'après ce que vos études, la matière noire a été mise en évidence indépendamment de ça. C'est-à-dire que, en fait, elle existe bien indépendamment du modèle.
Non, la matière, enfin, la matière, le modèle qu'on utilise, c'est la dynamique de Newton, la mécanique de Newton, qui régit les mouvements des étoiles dans les galaxies et les mouvements des galaxies dans les amas. Ce qui existe effectivement, c'est la théorie monde, c'est Modified Newtonian Dynamics, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une théorie qui a été développée par Milgrom et Bekenstein à partir des années 80. Et c'est une théorie où la force est égale à m fois l'accélération, mais avec un terme correctif aux très faibles accélérations. Et donc, on arrive avec Monde à expliquer très bien les courbes de rotation des galaxies spirales, c'est-à-dire que les galaxies spirales ont une forme, disons, une courbe de rotation, c'est simplement la vitesse en un point de la galaxie en fonction de la distance au centre de la galaxie. Ces courbes de rotation suggèrent qu'il existe de la matière, un halo de matière noire autour des galaxies qui confinent la matière, disons, dans la galaxie. Et avec les équations de Monde, on arrive aussi très bien à avoir des courbes de rotation comme celles qu'on observe. Par contre, dans le cas des amas de galaxies, on a fait les calculs avec mon collègue Daniel Gerbal qui travaillait ici, avec qui j'ai travaillé, Marc Lachiezeret et Gastão Limagneto, il y a plus de 10 ans, 15 ans peut-être. On a fait le calcul et on a montré que Monde ne marchait pas, c'est-à-dire que Monde permet d'expliquer un petit peu de la masse, mais pas tout. Donc on a quand même besoin de matière noire. Alors changer la mécanique newtonienne qui fonctionne quand même très très bien pour avoir quand même besoin de matière noire, bon, ça nous disait pas trop. Il y a 2-3 ans, les mêmes calculs ont été refaits, bien sûr sans nous citer, parce qu'un article qui a 10 ans, n'est-ce pas Daniel, on l'oublie, et qui ont trouvé la même chose. Donc ça nous a fait plutôt plaisir.
Voilà, mais néanmoins, il y a quand même.
Marie là-bas qui lève la main des.
Néanmoins, il y a encore des. Oui, mais il y a quand même des gens qui continuent à travailler
oui.
sur le.
Ah, mais c'est toujours théorie. Bien d'avoir des théories. Voilà. Ce que je dis simplement, c'est que pour les amas, ça ne suffit pas.
Voilà.
Mais oui. C'est toujours intéressant.
C'est toujours intéressant d'être en veille quand même constamment. Hein. Une théorie n'est jamais complètement morte, sauf si vraiment, bon, voilà, mais. Mais c'est toujours. Il y a toujours sur le gris plusieurs explications possibles d'un même phénomène. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous disiez, oui.
Oui, j'espère que je vais comprendre la réponse à la question que je vais poser. Il me semble que vous avez dit qu'à un moment, vous vous étiez interrogé pour savoir si les amas étaient antérieurs aux galaxies. Et oui. Alors, ça, voilà, donc oui, vous êtes bien posé cette question-là.
Oui, alors je l'ai dit dans l'autre sens, c'est-à-dire
voilà,
qu'en fait,
les galaxies étaient...
ce qu'on pense, c'est que les petites structures se sont formées avant les grandes, donc les galaxies se sont formées avant les amas.
Voilà, mais je comprends même donc pas comment on pourrait imaginer autre chose que... c'est ça qui... Ma question, c'est comment ce serait possible que les amas soient antérieurs aux galaxies?
C'est-à-dire qu'en fait, je simplifie un peu, mais disons qu'en... En pratique, il y a deux théories qui ont été développées. Il y a la théorie de la matière noire froide et la théorie de la matière noire chaude. Dans la théorie de la matière noire froide, effectivement, qui est celle qui est la plus communément admise maintenant, les petites structures, donc les galaxies, se sont formées les petites galaxies se sont formées avant les grosses et avant les amas. Par contre, dans le cas où la matière noire aurait été chaude au départ, au début de l'univers, chaude, c'est-à-dire avec une agitation thermique importante, des vitesses de particules importantes, à ce moment-là, les calculs montrent que ce sont au contraire des grandes structures qui se forment et qui ensuite vont se fragmenter pour donner les galaxies. Donc, c'est ce que je voulais dire.
Voilà. Il y a un scénario, il y a une autre façon, enfin, parfois on entend dire la scénario de haut vers le bas ou de bas vers le haut. C'est-à-dire vous partez oui. d'un grande masse de gaz, c'est le gros, et vous fragmentez, vous faites du petit. Vous pouvez aussi penser les choses à l'envers. Vous partez de petites structures qui se forment un peu partout, qui se rassemblent après. Ça, c'est le bas vers le haut.
Oui, merci. Je crois qu'il y avait aussi une théorie qui, où en fait, les premières structures seraient nées autour de trous noirs qui auraient servi de pivot.
Alors ça, je ne sais pas très bien.
Il y aurait eu dans chaque amas de galaxies au moins un trou noir central qui aurait servi de pivot pour l'ensemble.
S'il y avait un trou noir central, on le détecterait par un moyen ou par un autre. On ne les voit pas directement, mais on les détecte par leurs effets gravitationnels.
Oui, justement, leur effet gravitationnel.
On ne détecte pas de... Enfin, il peut éventuellement y avoir un trou noir dans la galaxie centrale.
Je crois qu'ils ont pratiquement trouvé un trou noir dans pratiquement toutes les galaxies. Et il semblerait que sur la galaxie principale de la mort, en général, il y en a une qui est plus grosse au centre.
Mais pas forcément.
Il y a toujours un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires.
Oui, mais par rapport à la masse d'une galaxie, c'est pas grand-chose. Et par rapport à la masse d'un amas entier, oui, c'est rien du tout. Donc finalement, même oui, s'il y avait un trou noir central, ça... Oui, il y a peut-être un trou noir central au centre des galaxies d'amas, comme il y en a dans la plupart des galaxies, mais ça ne va pas changer grand-chose.
Oui, je voulais savoir si on sait comment évolue cette structure en éponge, donc composée de filaments d'amas de galaxies. Est-ce que, par exemple, les amas de galaxies ont tendance à se densifier sous l'effet de la gravitation et en même temps s'éloignant sous l'effet de l'expansion de l'univers? Donc est-ce que cette structure évolue ou est-ce qu'elle est relativement stable?
Du fait de l'expansion de l'univers, forcément, il y a à la fois l'expansion globale, et puis il y a aussi ces mouvements le long de particules, enfin de matière, le long des filaments. Donc finalement, les amas, il y en a. Vous avez vu l'image du résultat de la simulation numérique. Il y a des amas qui se rencontrent et qui fusionnent, et très probablement en arrivant le long de filaments, justement. Et puis il y en a d'autres qui s'éloignent du fait de l'expansion de l'univers. Donc il y a un peu tous les cas de figure, je dirais. Il n'y a pas un seul cas. C'est pour ça qu'on observe toutes sortes d'amas différents.
Merci de la présentation. Vos jeunes, là, finalement, ils ont été plus intéressés par la photo ou par la cosmologie?
On a réussi à les intéresser. Enfin... On a essayé de les ouvrir à tout ça ensemble. Enfin, forcément, il y avait le jeu de la photographie. Il y avait le jeu de s'amuser aussi avec des images. Évidemment, il y avait quelque chose de ludique. On a affaire à des adolescents. Mais du coup, que des fondations comme la F93 mènent des projets comme ça au sein du 93, c'est plutôt quelque chose de, au contraire, très positif. Parce que ça donne une ouverture à des mondes différents, à se rendre compte qu'ils peuvent faire que aussi ces adolescents peuvent certains sont très doués et peuvent vraiment faire de grandes choses de leur vie. Voilà, je pense que c'était cette ouverture-là qui était très très importante.
Bon, après, je pense qu'effectivement, ils se sont plus amusés avec le photographe qu'avec moi, parce que forcément, ils m'ont reproché à la fin de ne pas avoir fait d'expérience. Or, la seule fois où on aurait pu observer le ciel... Ils m'ont demandé, le prof m'a appelé la veille en me disant « Est-ce qu'on peut observer le ciel ?» Mais alors pas plus tard que 6 heures. La nuit, c'était en février, la nuit tombait vraiment à 6h30, donc c'était pas possible. Il fallait qu'il soit sorti à 6h parce qu'à 6h le collège fermait. Je lui ai dit « Il fallait me le demander en janvier. En février, c'est trop tard. » Et puis faire des expériences, je suis pas chimiste, c'était compliqué. Donc j'ai essayé de pas faire des présentations comme ça, mais plus des présentations où je présentais un petit peu quelque chose, et puis j'interrompais en posant des questions, en essayant de les faire réfléchir. Je ne vais pas vous dire que tout le monde a bien suivi, mais enfin disons qu'il y avait peut-être la moitié de la classe.
Il y avait aussi l'importance aussi des jeunes filles.
Oui, il y avait les filles aussi, oui.
Ça fasse partie d'une association.
Oui, je fais partie de...
C'est important aussi, enfin, je veux dire, pour des adolescents et des adolescentes, se rendre compte aussi, voilà, une femme scientifique, astrophysicienne, etc. Tout ça, ça peut avoir aussi une valeur avec ces jeunes-là. Et je pense que ces fondations, en dehors d'ouvrir un domaine artistique, scientifique, culturel, sociologique, etc., il y a plein de choses qui se passent. Du coup, il y avait tous ces aspects qui, en tout cas, qui, pour ma part, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur tout ça, sont très très importants.
Ah ben, il y avait deux filles qui étaient vraiment formidables, dont une, enfin j'ai discuté un petit peu avec elle le dernier jour, il y en avait une qui allait faire un dossier pour essayer d'aller en seconde à Louis-le-Grand. Bon, venant de Neuilly-sur-Marne, d'un petit collège dans une ZEP, c'est pas évident. Et une autre qui allait aller en seconde dans un lycée du coin, mais qui avait l'intention de faire des études scientifiques après. Donc c'était quand même... Bon, il y en avait deux, quoi.
Et puis, je trouve qu'introduire l'astrophysique, l'astronomie dans des milieux comme ça, ou même dans n'importe quel milieu, d'ailleurs, c'est toujours intéressant, parce que immanquablement, je ne sais pas si vous avez vu le cas, la question à quoi sert l'astronomie est posée.
Ah bah forcément, oui.
Pourquoi ça... vous nous... Voilà, à quoi
pourquoi
ça sert.
Vous faites ça, oui.
Une question fondamentale à laquelle on ne sait toujours pas répondre, c'est est-ce que les étoiles ont précédé les galaxies ou les galaxies ont précédé les étoiles. Même cette simple question, on n'a pas de réponse encore parfaitement claire. Ça continue toujours. Ça fait des dizaines d'années qu'on fréquente des colloques où on voit toujours les mêmes questions posées en début. C'est ça, c'est pas immédiat hein, d'avoir des réponses. C'est une énorme frustration pour les astronomes que de travailler sur un univers dont on ne connaît que 5%.
95%, ce serait bien.
Et encore. Voilà. Ben, merci, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants.